Général Tavernier, vous êtes l'un des 5 officiers généraux attachés de défense français et aussi responsable de la mise en œuvre de l'ensemble de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Et à ce titre, comment pouvez-vous nous parler aujourd'hui de ce livre blanc qui concerne donc la sécurité, la défense? Quels sont les enjeux géopolitiques contenus dans ce livre blanc?
Je suis directement intéressé, concerné par ce livre blanc, puisque c'est le livre blanc sur la défense et la sécurité, et la défense, c'est mon métier. Donc à ce titre, c'est un texte fondamental pour moi, fondateur, je dirais même, puisqu'il définit les grandes orientations stratégiques, l'organisation de la défense française, en dehors des textes législatifs ou constitutionnels qui organisent cette défense française. Mais c'est donc l'expression de la volonté du président de la République, président Sarkozy, à l'issue des travaux d'un comité qui a travaillé pendant presque une année en consultant de nombreux experts français et étrangers pour avoir une idée vraiment fondée, avoir des arguments bien étayés sur tout ce qui sous-tend la politique de défense de la France qui est exprimée dans ce livre blanc.
Qu'est-ce qui justement sous-tend cette politique ?
Il faut rappeler que ce livre blanc est le premier livre blanc depuis celui de 1994. Et celui de 1994 avait suivi la chute du mur de Berlin qui était un bouleversement stratégique majeur. Le deuxième bouleversement stratégique majeur que nous avons connu récemment, c'est celui du 11 septembre 2001 qui a introduit le terrorisme à une échelle mondiale. Nous avions en France ou en Italie, où divers pays du monde avaient été frappés par le terrorisme, mais d'une manière beaucoup plus locale. Et donc, à l'ère de la mondialisation, dont nous voyons d'ailleurs des effets aujourd'hui même avec la crise économique qui frappe le monde, il était nécessaire de replacer la défense de la France dans cette nouvelle situation géostratégique qui touche l'ensemble des secteurs de la vie du monde. Et c'est pour ça que le président de la République avait demandé ces travaux. Et la principale conclusion de ce livre blanc, c'est que précisément, la défense de la France s'inscrit au sein du système mondial. Le président de la République a redéfini des fonctions stratégiques qui permettent à la France de défendre ses citoyens, principalement, c'est le premier objectif, défendre le pays et ses citoyens. Et une fonction stratégique nouvelle a été créée, qui est l'anticipation et le renseignement, qui a pour objectif de permettre aux autorités politiques et militaires françaises d'avoir la plus grande anticipation possible sur les événements du monde, de façon à prendre le plus en amont possible les mesures préventives pour au mieux éviter une guerre, au minimum en limiter les conséquences pour les populations et au pire s'y préparer pour de bon.
Alors vous parlez à l'échelle mondiale, or la France c'est seulement 1% de la population mondiale, un budget qui est inférieur pour la défense à l'éducation nationale, a-t-elle une parole et quelle parole ?
Oui, la France a une parole. La France fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité aux Nations Unies, c'est une puissance nucléaire. Ce simple fait donne à la France un rôle spécifique avec les 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité. Il ne s'agit pas de mettre la France sur un piédestal, mais la France a des responsabilités particulières du fait qu'elle fait partie des 5 grands et qu'elle est dotée de l'arme nucléaire. D'autres en sont dotés depuis, mais ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité. La France reste un petit pays géographiquement, économiquement et en matière de population par rapport au reste du monde. Il n'empêche que la voix de la France est écoutée.
Alors vous avez parlé d'anticipation, parce que c'est une anticipation voulue pour préserver la paix.
Exactement. Et l'effort principal qui a été décidé par le président de la République porte dans le domaine spatial de l'observation par satellite. Et les crédits consacrés à l'observation à titre de renseignement, les crédits vont doubler pour l'observation satellitaire au titre du renseignement. L'objectif de cette anticipation a pour but de sentir le plus en amont possible les mouvements de la planète, quel qu'il soit. Je discutais avec notre représentante auprès de la FAO et on parlait des émeutes de la faim. Elle me disait que la FAO est en mesure de suivre avec justement, notamment avec des satellites, l'évolution des récoltes dans le monde, etc. et de faire des prévisions qui permettent de prévoir, de conclure qu'il y a un risque dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région, de famine, etc. Et quand on a faim, on a vu l'an dernier, il y a 32 pays qui ont été touchés par des émeutes de la faim. Et ben, quand on a faim, il se passe des choses qui peuvent être absolument dramatiques et mettre en sécurité non seulement la population directement concernée, mais la région, voire le monde entier, selon la sensibilité du pays qui est touché. Donc cette fonction d'anticipation a comme premier but de percevoir le plus tôt possible tous les événements qui vont avoir une conséquence sur la sécurité de la France, sachant que la sécurité de la France s'inscrit très fortement au sein de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et que donc la France n'envisage sa sécurité avec ses propres moyens, mais ne l'envisage pas seule parmi les nations du monde. La France place très nettement sa sécurité au sein de ces deux organisations.
Vous parlez de sécurité, et en parlant de sécurité, on ne peut pas s'empêcher de parler aussi de liberté.
Une des composantes de la défense française est le fait qu'elle dispose d'une force de dissuasion nucléaire, et que cette force de dissuasion nucléaire a comme seul et unique but de protéger les intérêts majeurs de la France.
Quand vous dites préserver les intérêts de la France...
Les intérêts majeurs de la France qui sont protégés par la dissuasion nucléaire ne sont pas sur la place publique. Ils ne sont pas définis parce que dans le cadre de la dissuasion, il y a quelque chose qui est très important, c'est le doute. Jusqu'où puis-je aller sans risquer de recevoir une frappe nucléaire française? Et ça fait partie de la dissuasion de ne pas dire, de ne pas préciser ce que sont les intérêts majeurs de la France, quels sont ceux qui sont pris en considération par le président de la République et par lui seul, puisque c'est lui et lui seul qui peut donner l'ordre d'employer l'arme nucléaire.
Parmi les 16 points clés du livre blanc, il est question de résilience. La résilience, capacité à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Comment cette résilience peut-elle entrer dans ce domaine de la défense et de la sécurité?
Je donnerai un exemple qui n'est pas français. C'est l'attitude des habitants de Londres pendant le bombardement. C'est malgré l'adversité, la capacité de rebondir, de se serrer les coudes, de repartir en avant pour défendre tout ce qu'on peut défendre avec tous les moyens que l'on a. Ne pas se laisser abattre parce que l'adversaire a donné un grand coup, comme un boxeur qui tombe, qui est KO une première fois et qui se relève et qui continue le combat.
Est-ce que vous pensez que la population française est préparée à vivre cette résilience?
Je pense que quand on vit en paix sur son territoire depuis maintenant 60 ans, il y a des réflexes qu'on perd parce qu'on n'a pas... En termes de défense, de risque, quand je sors de chez moi en France, je ne me dis pas, tiens, la guerre va éclater aujourd'hui et je ne risque pas de rencontrer une patrouille ennemie qui va m'arrêter, vérifier mes papiers comme nos parents, nos grands-parents l'ont connu. Mais je suis au demeurant persuadé que, on l'a vu au moment de la première guerre du Golfe, par exemple, où on a véritablement, nous les militaires, senti un esprit de corps de la France autour de ces soldats qui partaient combattre Saddam Hussein en Irak. Je suis persuadé que si le besoin se faisait sentir, et malgré tous les individualismes français et tous les caractères bien connus du français, je suis persuadé qu'en cas de besoin, la nation se ressoudrait. On l'a déjà vu récemment, je n'ai aucun doute là-dessus.
Alors vous pouvez comparer aussi, puisque vous avez vécu de longues années en Pologne, qu'est-ce que vous retirez de votre expérience ?
La religion et la littérature sont, selon moi, les deux piliers de la culture polonaise dans laquelle l'histoire joue aussi un rôle fondamental. Les Polonais sont un peuple féru d'histoire, ils connaissent leur histoire absolument par cœur, mais ils connaissent notre histoire aussi bien que la leur.
Qu'est-ce que vous voyez comme notion qui se complète ou qui, au contraire, il faut creuser? Vous disiez, entre autres, les Polonais connaissent leur histoire.
Ce qui m'a frappé, c'est qu'un même événement a deux lectures. Et ne peut pas ne pas avoir de lecture. Dans la construction européenne d'aujourd'hui même, j'ai eu la chance, c'était vraiment une chance parce que c'était un moment très très fort de mon séjour en Pologne, d'assister à la révolution orange en Ukraine depuis la Pologne. Les relations historiques polono-ukrainiennes n'ont pas toujours été excellentes, il y a quelques griefs assez durs entre les deux pays, mais je peux témoigner du bonheur profond des Polonais que leurs frères ukrainiens de l'autre côté de la frontière, et pas simplement les Polonais d'Ukraine, mais les Ukrainiens, quelle que soit leur origine, jouissent enfin de la même liberté que eux. Et il y avait des rassemblements partout, tout le monde portait des écharpes oranges ou des gilets oranges. Enfin, il y avait vraiment une communion très très forte, très sentimentale, très, très romantique à la polonaise, mais vraiment une communion très forte avec les Ukrainiens, et il y a un vrai bonheur de les voir enfin libres. Quelque chose qui n'était pas du tout perçu de la même manière, je ne me rappelle plus les articles dans la presse française, mais des articles beaucoup plus négatifs sur ce qui se passait en Ukraine à l'époque.
Quelles ont été, Jean-Sébastien Tavernier, vos priorités quand vous avez commencé à faire une carrière dans l'armée ?
Mes objectifs, quand je suis rentré à Saint-Cyr en 1973, c'était de commander des hommes. C'est-à-dire que j'étais à la sortie de l'école, j'étais lieutenant, j'ai commandé une trentaine d'hommes, puis ensuite, deux ans plus tard, j'en ai commandé une centaine. Et puis, l'étape obligatoire pour les officiers, c'est l'école de guerre, qu'on appelle le Collège interarmée de défense maintenant, qui était la passerelle nécessaire pour commander un régiment, donc grosso modo un millier d'hommes, et ça, c'était mon objectif. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à commander des hommes, j'ai goûté le plaisir de commander des hommes, mais en même temps les responsabilités, et surtout, je dirais, le retour. Combien, je n'ai jamais commandé que des appelés. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes qui sont tous arrivés au service militaire en disant « je n'ai pas envie de venir, c'est un an de perdu, je ne souhaite pas le faire ». Le nombre de ceux qui sont venus me voir après, quel que soit mon grade, pour me dire merci, pour me dire qu'ils avaient appris des choses, pour me dire combien cette année de service militaire n'avait pas été du temps perdu. Mais ça, c'est ce qui a été le plus gratifiant. S'apercevoir que, à travers mon métier, en obligeant des garçons à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire au service de la communauté, parce que c'était bien ça, c'était au service de la communauté française, et on revient à la défense, mais ils ont participé à la défense de la France, et on peut d'ailleurs leur rendre hommage, parce que ces millions de jeunes Français qui ont fait leur service militaire ont gagné la guerre froide, parce qu'ils ont empêché qu'une autre guerre mondiale n'éclate après 1945. Donc c'était le plus gratifiant, c'est de voir que ces jeunes, qui étaient contraints de faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire, avaient appris quelque chose, et que c'était un peu moi qui leur avais appris, mais j'avais réussi avec mes cadres, pas tout seul, parce qu'on n'est jamais seul, mais nous avions réussi collectivement, et parfois moi à la tête de ceux qui avaient réussi, à leur apprendre quelque chose.